Louis Guinard, bonjour. Je t'ai découvert pour la première fois ici au Main Square, dans une scène qui est toute nouvelle cette année. Tu l'évoquais un peu dans le concert. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau dispositif ?
Pour rebondir, scène créée avec le Pharos et puis la salle du Poche.
Oui, bah, je suis super content moi, qu'ils aient réussi à avoir cette scène, que le Main Square ait joué le jeu, de vraiment programmer les groupes dans le festival, que c'est con, hein, mais que les noms figurent sur l'affiche, que ça fasse vraiment partie intégrante du festival. Je trouve ça vraiment cool parce que la scène régionale est assez fleurie finalement. Et que des salles comme ça vraiment se donnent du mal et réussissent à créer une scène comme ça, je trouve que ça permet de rayonner en fait à la scène, et ça donne une vraie belle vitrine en fait de ce qui se fait dans le coin, parce que le Main Square c'est un festival qui est énorme, qui est national, donc d'avoir des publics qui viennent de un peu toute la France, en plus des Hauts-de-France.
Comment t'as vécu finalement ce concert dans une citadelle ?
Bah très bien, c'est impressionnant en fait en arrivant dans le festival, parce que c'est une organisation qui est tellement vaste et complexe que d'arriver dans un festival comme ça, on a l'impression de rentrer dans un village, dans une petite ville quoi, où tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde travaille, il y a plein de trucs différents. On arrive dans le festival en voiture, on a encore 5 ou 10 minutes de voiture avant d'arriver sur la scène. Et j'ai vraiment halluciné hier quand on est arrivé avec Weekend d'affaires, parce que j'avais jamais vu un festival aussi gros en termes de dispositif sur un seul endroit, quoi.
Alors, je t'ai vu dans la formation Week-end Affaires à la fête de la chanson. C'est assez aérien, ça décolle pas mal. Et là, tu es dans une formation beaucoup plus country, enfin, américaine. C'est quoi ces deux pôles que tu as en tête ? T'as peut-être un troisième groupe ou une autre tendance musicale ?
Ben non, c'est différentes choses que j'aime faire. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est jouer et écrire de la musique. Et en fait, d'avoir ces deux projets-là, ça me permet de vraiment pouvoir laisser libre cours à mon imagination sans contrainte de style, en fait. Parce que c'est deux styles qui sont déjà tellement différents que ça me permet de m'exprimer de plein de manières différentes. Là, je pense que je vais rajouter un troisième projet dans la boucle. Je vais commencer un autre truc, mais...
Quel style ?
Ben, ça sera en français, je pense, mais je pense que ce sera plus chanson française, mais pas du Week-end d'affaires, ça sera moi qui fais tout. Mais je sais pas encore, enfin, c'est des projets qui prennent du temps, et du temps là en ce moment j'en ai pas des masses, j'ai juste les envies. Mais j'ai encore plein de morceaux que j'écris tout le temps, j'en écris un ou deux par jour, et du coup faut que je trouve les bons tiroirs où les mettre pour pouvoir en faire quelque chose de concret, quoi.
Cracked my head wide open by the time I blinked and saw your smile. No need for a gun, you killed me fine. Torn my heart in pieces like a good old bag of cereals. I bled on the floor, laying on my side. It's hard to sleep, way harder to wake up. I don't want to keep staying on top. I'm sorry to be sorry. Makes me more. Up the next morning, your side of the bed was still cold. Pictured myself jumping off a plane. Tried to go downstairs, there were pictures of you on every wall. How do people keep from going insane? It's hard to sleep, way harder to wake up. I don't want to keep staying on top. I'm sorry, let me sorry. Should have read. I knew one day we'd grow apart. I never thought it'd please me, but it seems so much easier for you than for me. It's hard to sleep, way harder to wake up. I don't want to keep staying on top. I'm sorry, but I'm sorry.
Un peu le phénomène de la reprise d'un chanteur assez connu. Est-ce que tu peux expliquer cette anecdote qui est quand même assez phénoménale avant que tu fasses toi-même ta propre reprise ?
Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 15 ans. Enfin, quand j'ai commencé à faire des concerts et des disques. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de morceaux à moi pour faire des concerts et il fallait que je joue quand même une heure, voire une heure et demie dans les bars parce qu'en dessous, ça les intéresse pas en fait de faire jouer quelqu'un. Et donc j'ai complété ma setlist avec plein de reprises. Donc je me faisais une espèce de playlist idéale de tous les morceaux que j'aimais bien et qui étaient susceptibles de rentrer dans mon cadre à moi et de plaire aux gens. Et ce que je raconte, c'est qu'un jour, il y a quelques années, j'ai un mail de Julien Doré qui veut faire une reprise de moi. Et donc je me suis retrouvé complètement de l'autre côté du de l'autre côté de la table et c'était ça.
C'est
assez...
ton frère qui t'a rappelé que c'était vraiment toi qui l'avait
ouais,
fait.
Ouais.
Comment ça s'est passé cette anecdote?
En fait, c'est un morceau qui est simple et que j'ai écrit vraiment, comme la plupart des bons morceaux, je l'ai écrit en 3 minutes, sur un coin de table, vraiment d'un coup, d'un seul, j'avais le morceau. Et en fait, à l'époque, je venais de rentrer des États-Unis et j'étais retourné vivre chez mes parents. Et mon frère, il vivait là à ce moment-là. Et en fait, j'avais fait un espèce de mini-studio dans ma chambre. Et pendant 3 mois, je l'ai saoulé avec ce morceau en lui demandant s'il était bien et tout. Et du coup, il n'y a pas longtemps, je ne vois pas beaucoup mes frères parce qu'ils habitent à Lille, moi j'habite à Amiens. Et il n'y a pas longtemps, on est allé boire des coups et puis il me dit « Mais putain, tu m'avais tellement saoulé avec ce morceau, je m'en souviens trop. » Et moi, je ne m'en souvenais pas du tout en fait parce que c'est un morceau qui est tellement à la fois présent dans ma vie et fort en émotion. Que parfois l'esprit a tendance à un peu chanter ces moments-là de la vie, quoi. Et je sais que c'est un de mes morceaux, mais je me souviens pas du tout de quand je l'ai écrit, quoi. Enfin, de comment je l'ai écrit.
Et donc, Julien Doré, qu'on connaît, on va dire, de façon nationale, comment finalement tu as vécu le fait de dire, tiens, les gens entre vous, vous écoutez, quoi.
Mais ça m'a rassuré, en fait, dans mon choix de carrière, entre guillemets. Parce qu'on est quand même. Moi, surtout, comme je tourne tout seul, je suis quand même beaucoup, beaucoup tout seul. Sur la route, dans les trains, dans les hôtels, sur scène, dans les loges. Il y a des tournées entières où je vois personne à part les gens des salles et que quand le concert est fini, je suis tout seul, quoi. Et c'est difficile de savoir où on se place en fait dans le milieu de la musique et d'avoir cette espèce d'adoubement d'un quand même un grand nom de la chanson et un grand nom qui est connu à mon goût pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il a jamais vraiment fait de concession par rapport à ce qu'il avait envie de faire. D'avoir son approbation à lui, ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment donné envie de continuer en fait. Ça s'est passé simplement, la rencontre en fait, c'est qu'on avait une amie en commun à Bruxelles, qui s'appelle Christine Massy, qui avait tourné un de ses clips. Et en fait, pendant tout le tournage du clip, elle faisait écouter mon album parce qu'elle adorait mon disque et du coup, lui, il avait bien accroché sur ce morceau-là. Et c'était devenu l'album qu'ils écoutaient tout le temps dans le tourbus de sa tournée précédente. Et en fait, au moment de sortir son album Love, avant de sortir le premier single, il commençait la promo pour revenir un petit peu, et il n'avait pas encore sorti de single, donc il jouait mon morceau. Et donc il a joué à la télé, dans C'est à vous, dans La Parenthèse Inattendue, il a joué dans plein de radios. À chaque fois, il prenait le temps d'expliquer qui j'étais, de dire comment il avait entendu le morceau. Adorable. Je l'ai rencontré une seule fois, mais c'est vraiment une belle rencontre.
tu as sorti un album il n'y a pas longtemps aussi, sous le nom de Louis Aguilar. Est-ce que tu peux en parler?
Ouais, c'est un album qui s'appelle Oh Boy. C'est... j'ai du mal à vue de nez, je dirais que c'est le cinquième ou sixième album. Et c'est un album qui est un peu particulier parce que l'album précédent, je l'avais enregistré en groupe. L'EP qui avait suivi cet album-là aussi. Et là, en fait, le groupe s'est arrêté pour des raisons personnelles et géographiques. Et j'avais vraiment envie de faire cet album parce que j'avais plein de morceaux. Et en fait, c'est un peu particulier parce que techniquement, l'album est écrit sur 7 ans. Il y a des morceaux que j'ai écrits vraiment il y a longtemps et des morceaux que j'avais écrits au moment de l'enregistrer. Et par contre, je l'ai enregistré en 5 jours chez moi, tout seul. Parce que j'attendais mon deuxième enfant et il fallait à tout prix que l'album soit enregistré parce qu'après j'allais plus avoir le temps de faire des prises. Et donc je voulais pouvoir me consacrer à la naissance de mon deuxième. Et une fois que tout était enregistré, c'était au mixage et là je pouvais faire ça par téléphone. Et puis le soir j'avais plus besoin de me dégager trop de temps pour enregistrer. Donc j'avais commencé à l'enregistrer chez moi tranquille. Et puis à un moment, à Amiens, ouais. J'ai un studio dans ma maison en fait, un petit studio qui me sert. Et j'avais commencé à l'enregistrer, j'avais déjà pas mal avancé et en fait mon ordinateur est complètement cramé et j'avais aucun backup, du coup j'ai dû tout réenregistrer un peu rapidement et j'ai fait finalement tout ça en 5 jours.
Est-ce que tu t'es entouré, d'une salle? Est-ce que tu t'es entouré du PAM ou des structures de la région aussi pour t'aider aussi en lien avec Weekend Affair et Play in Lonely?
Sur ce projet, j'ai toujours été très très bien accompagné. J'ai déjà bénéficié d'un accompagnement par le Grand Mix. J'ai fait des résidences à l'Aéro, à la Cave aux Poètes, dans à peu près toutes les salles du coin en fait. Et j'ai déjà bénéficié de beaucoup de dispositifs. Sur cet album-là, c'est vraiment le label de Cyril de Weekend Affair qui m'a aidé. C'est Play It Loudly. Qui m'a en fait permis de faire le disque en s'occupant de toute la partie vraiment demande de financement, travail presque un peu de direction artistique, mais de vraiment de production quoi, un vrai travail de producteur de disque. Et grâce à eux, on a eu pas mal d'aide en fait, je crois. Il y a eu la DAMI, je crois, la SCM, ouais, je sais plus, mais il y a plein de trucs quoi.
How could you leave me and turn off the light? You know I'm everything but strong. You took all I had and told me to fight. How could left me alone
très, très peu, un peu comme moi. Tu as parlé des voyages aux États-Unis. Parle-nous un peu de tes voyages là-bas, ta pratique de l'anglais, de ta, que tu as vécu là-bas. Comment c'est ton rapport aux États-Unis en général et à l'anglais?
Bah, mon rapport à l'anglais, il est simple. C'est que j'ai toujours aimé cette langue. Je viens d'une famille qui est à la base anglaise, mais de loin. On n'a jamais parlé anglais à la maison, mais on le connaît à peu près tous. Mon père aurait pu avoir la double nationalité par son père, mais comme il ne pouvait pas la transmettre à ses enfants, il ne l'avait pas prise parce que lui, ce n'était pas dans ses projets de vie d'être anglais, quoi. Mais on a toujours eu des traditions très anglo-saxonnes, et en fait, l'anglais, c'est venu assez naturellement dès l'école primaire. Je comprenais tous les cours d'anglais, ça me paraissait parfaitement logique. Et du coup, en bossant un petit peu avec les films, les musiques, les séries, je suis devenu bilingue assez rapidement. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont anglo-saxons. Mon ancien bassiste, Brendan, lui, il est irlandais, on parle qu'en anglais ensemble. Et en fait, dans mon parcours de vie, ça a toujours été rythmé un peu par mes rencontres amoureuses. Et à un moment, je sortais avec une Américaine et c'est pour essayer de la suivre que j'avais fait mes démarches pour aller vivre aux États-Unis. Et en fait, bon, l'histoire a capoté, comme toutes mes histoires. Ouais. Mais je suis parti vivre dans le Missouri, en fait, un peu comme ça, parce que j'avais envie de changer d'air, j'avais envie de voir d'autres choses. Et la musique que je fais depuis longtemps, c'est de la musique qui a ses sources aux États-Unis. Et j'avais envie d'aller voir sur place plutôt que de faire semblant, quoi. Et là-bas, en fait, tout s'est fait assez simplement parce que c'est quand même des gens très accueillants. Et en fait, là-bas, je suis arrivé à la fac. J'avais une bourse pour faire du dessin dans une fac. Mais avec mon visa de travail, j'avais pas le droit de gagner de l'argent. Enfin, j'avais pas le droit de travailler, en fait. J'avais qu'un visa étudiant. Donc, j'avais pas le droit de prendre un emploi et de bosser pour gagner ma vie. Mais en jouant de la guitare, en fait, sur le campus, quand je suis arrivé, je connaissais personne. Ben un jour, au petit déjeuner à la fac, à la cafette de la fac, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « Ouais, on a un groupe, on nous a dit que tu jouais de la guitare, on a un concert dans une semaine, est-ce que ça te dit de rejoindre le groupe, quoi ?» Je fais « Ouais, ok, pas de problème. » Et puis il me payait en fait en cash, moi ça me faisait de l'argent de poche comme ça sur place. Et le premier concert était dans le Wisconsin, à 10 heures de route de là où on habitait. Et j'ai rencontré des gens super. Et en fait, le chanteur du groupe était champion de rodéo, parce qu'il y avait une équipe de rodéo à la fac. Comme il y avait une équipe de football américain, et ainsi de suite. Un peu plus loin de la fac, parce que c'est quand même des rustres, il y avait une arène de rodéo avec des taureaux, des chevaux un peu sauvages, et puis et les gars, ils faisaient ça, quoi. Et donc, nous, on partait en tournée, on faisait les afters des rodéos. T'as des compètes de rodéo tout le temps, partout aux États-Unis. Et nous, on faisait tous ces trucs-là. On partait, on avait une caravane. Le chanteur, la journée, il faisait ses compètes. On espérait qu'il ne se casse pas une jambe ou un bras, parce que c'est quand même ultra violent comme sport. Et nous, pendant ce temps-là, bah déjà en arrivant, ce qui diffère de la musique en France, c'est qu'en arrivant, bah, on sortait les chevaux de la caravane avant le matos. Parce qu'on partait, on avait une énorme caravane et on avait deux chevaux, les deux chevaux du chanteur en fait. Et chacun notre tour, on enlevait le crottin et puis on mettait de la paille et puis on leur trouvait un endroit où on pouvait les accrocher pour leur donner à manger et à boire. Et ensuite, on sortait le matos du groupe et on allait l'installer dans la salle où on jouait. Et c'était des concerts vraiment... ça n'a pas vraiment d'équivalent en fait. Peut-être le plus proche, ça serait un peu du bal. En fait, c'était des concerts de 3 jusqu'à 4 heures. 3-4 heures après les compètes, où ça dansait en ligne et tout ça, et c'était que des standards de la country, quoi. Et moi, je faisais de la guitare, j'étais le petit Frenchie. Et je faisais de la gratte, je jouais toujours à peu près la même chose parce que tous les morceaux se ressemblaient. Voilà, je connaissais aucun morceau, je les confondais tous, mais je m'amusais très bien.
Alors peut-être dernière question, donc on l'a vu pendant ton concert, finalement il y a quand même pas mal de désespérance, hein, finalement, beaucoup beaucoup de ruptures, de tristesse, tout ça. Tout va bien quand même pour toi et la suite quand même.
Ouais, non, tout va bien en vrai. Mais je vois pas ça comme de la désespérance en fait, c'est mon parcours de vie, j'ai vécu beaucoup d'histoires avec plein de gens différents et... C'est important pour moi de les raconter parce que c'est des histoires qui m'ont marqué et c'est mes sources d'inspiration. Mais je le vis pas du tout comme une désespérance, c'est simplement une forme de mélancolie heureuse, quoi. C'est ma vie d'avant. J'aime bien y repenser parce que j'ai vécu des belles choses avec plein de gens. Et maintenant tout va bien. Ça fait 7 ans que je suis avec ma copine, on a deux magnifiques enfants. Non, pas trois, non, on arrête à deux. Après, sinon j'arrête la musique, j'ai plus le temps là.
Et donc ta suite ?
La suite, là, ça va être le prochain album de Weekend Affair qu'on est en train d'écrire. On va donner des nouvelles, je pense, en septembre. Et puis, moi, j'ai commencé l'écriture de mon prochain disque aussi. Et mon troisième projet en français qui avance bien. Et ça me paraît déjà pas mal. Là, j'ai déjà des trucs jusqu'au mois de juin sur mon agenda. Ah si, j'ai aussi, l'année prochaine, j'ai une bonne tournée live entre les livres avec Dynamo dans plein de médiathèques des Hauts-de-France. Il y a eu une douzaine de dates, ils ont failli rappeler la tournée Louis entre les livres parce qu'il y avait beaucoup trop de dates de moi. Et donc ça, il faut suivre parce que c'est vraiment un cadre où j'adore jouer. C'est des médiathèques, c'est familial, c'est des petites scènes comme ça que j'aime beaucoup. Et puis il y aura des belles premières parties là, à la rentrée aussi.
Merci beaucoup.
Merci.
This love song is just another story. I kinda thought it maybe you'd want to hear about it. This love song, it's not for anybody. It's a song about you only. It's the one I wrote last night. And I'll try not to make it too long. No one likes a long song, but I really hope that maybe with this song you might love me. Love song is just another story. I wish you could just tell me where it all went wrong. And I'll try not to make it too long, 'cause no one likes a long song. And I really hope that maybe with this song you might love me. Song is my way to say I'm sorry. Do you mind if I come early? I think we need to talk.